Et le journal vous est présenté par Claire Flochel. Bonsoir Claire.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'arrêt des soins pour Vincent Lambert, ce patient tétraplégique en état végétatif depuis 10 ans, devenu symbole du débat sur la fin de vie en France. La Cour de cassation a rendu sa décision cet après-midi. Nous serons sur place au début de ce journal avec Antoine Marette. À suivre, les arguments des professionnels de santé qui se félicitent que la Haute Autorité de Santé recommande de ne plus rembourser les granules homéopathiques. À la une ce soir aussi, ces records de chaleur, plus de 45 degrés dans le sud de la France. Et ces mobilisations pour le climat qui continuent. À Berlin, plusieurs centaines de jeunes ont encerclé le Reichstag pour demander aux députés de réagir. Et puis nous nous rendrons à Tunis à la rencontre des habitants dont la vie est mouvementée depuis 24 heures. L'état de santé du président s'améliore et ses psys avaient fait un malaise quelques heures seulement après le double attentat dans la capitale. Et on commence donc avec cette nouvelle décision dans l'affaire Vincent Lambert. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel qui ordonnait il y a un mois, la surprise générale, la reprise de l'hydratation et de l'alimentation de cet homme en état végétatif depuis plus de 10 ans. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de la Cour de cassation. Il n'y a donc désormais plus de recours possible.
Oui, sans grande surprise, la Cour de cassation a suivi le procureur général. François Molins préconisait de casser la décision du 20 mai de reprendre l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert sans renvoi devant aucune juridiction. La question ne portait pas sur la fin de vie, mais sur un débat purement juridique, à savoir la Cour d'appel est-elle compétente pour ordonner le maintien en vie de Vincent Lambert, car habituellement ce type de litige relève de la justice administrative. Et dans le cas qui nous intéresse ce soir, la plus haute juridiction, à savoir le Conseil d'État, a validé la décision d'arrêter les traitements. La Cour de cassation a donc cassé la décision de la Cour d'appel de Paris en la déclarant incompétente dans cette affaire. C'est donc logiquement l'arrêt du Conseil d'État qui s'impose, à savoir l'arrêt des traitements de Vincent Lambert. Cela signifie-t-il l'épilogue judiciaire de cette affaire? C'est en tout cas l'avis des avocats de l'épouse de Vincent Lambert, pour qui plus aucun recours ne subsiste désormais. Effectivement, on imagine mal ce soir un nouveau rebondissement, mais gardons-nous d'en tirer des conclusions définitive, car dans cette affaire, les rebondissements les plus improbables se sont succédés et les avocats des parents ne déclarent pas forfait ce soir. Ils menacent de porter plainte au pénal contre le médecin de Vincent Lambert et les ministres concernés en cas d'arrêt des traitements. À noter que la conférence de presse a été tendue ce soir. La militante proche de l'extrême droite, Farida Belghoul, a tenté d'empêcher le neveu de Vincent Lambert de s'exprimer devant les journalistes.
Merci Antoine Marette en direct de la Cour de cassation avec Marcos Darras pour les moyens techniques. L'homéopathie ne devrait plus être remboursée par la Sécurité sociale car son efficacité est insuffisante. C'est l'avis rendu ce matin par la Haute Autorité de Santé. Ces petites granules de sucre sont même inutiles sur des maux bénins qui guérissent tout seuls. Un constat scientifique implacable sur lequel devrait s'appuyer le gouvernement. La ministre de la Santé a d'ores et déjà affirmé à plusieurs reprises quelle suivrait l'avis de l'organisme pour la décision finale. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Pour juger, la Haute Autorité de Santé s'est basée en fait sur 37 études scientifiques, mais parmi 1000 au départ.
Oui, aucune des 37 jugées valides n'a convaincu les experts de la Commission de la Transparence. La plupart du temps, l'effet de l'homéopathie n'est pas supérieur à un simple placebo. Or, même des thérapies comme le sport peuvent faire l'objet d'une évaluation rigoureuse, affirme la présidente de la Haute Autorité de Santé, Dominique Le Guludec.
Par exemple, l'activité physique, qui est également très individuelle, hein, a démontré une efficacité préventive ou même thérapeutique dans certaines maladies. Elle l'a démontré de façon très scientifique et tout à fait probante. Donc on peut adapter les méthodes, mais faire des études scientifiquement valables, même sur l'homéopathie.
On l'aura compris, aucune étude n'a convaincu la Haute Autorité de Santé. Ce que contestent les défenseurs de l'homéopathie en chanson, ils manifestaient aux Invalides. Directrice du site Boiron d'Ivry-sur-Seine, Betty de Craz veut y croire.
Il y a un certain nombre d'études et on voit bien qu'ils sont efficaces. Au quotidien, parler aux médecins, parler aux pharmaciens, parler aux sages-femmes. 78% des sages-femmes ont recours aux médicaments homéopathiques pour les femmes. Si c'était inefficace, ça ferait longtemps que les patients auraient arrêté, donc elle se serait éteinte toute seule, l'homéopathie.
La moitié des effectifs de Boiron est menacée en cas de déremboursement, affirme le laboratoire. Mais les salariés veulent se battre. Evelyne et Thomas préparent les commandes à Reims.
On a une épée de Damoclès sur la tête, mais on est très mobilisés. Il faut savoir qu'avec mon homme et mon choix, on a fait signer énormément de pétitions puisqu'on a passé le million de signatures.
Tout à fait. Aujourd'hui, on a la fierté de dire qu'en homéopathie, on est 100% français. On produit tout en France. On distribue dans le monde, mais on produit tout en France. 2500 salariés en France. C'est beau. On est leader mondial, mais ça devrait être une fierté pour la France. Et depuis plusieurs années, on nous met des bâtons dans les roues. On dérange dans le monde du médicament alors que c'est une thérapeutique comme une autre qui est efficace et qui soigne sans effet secondaire.
Un peu plus loin, le médecin généraliste Alain Sarambeau de la Société française d'homéopathie en appelle à Agnès Buzyn.
Alors je fais un appel à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Solidaire des gens les plus pauvres qui vont au dispensaire ou qui ont la CMU, ouais. Ils n'auront plus le droit à l'homéopathie.
C'est pas très cher en même temps.
Oui et non, parce que le fait que là c'est à 2% de TVA, si c'est déremboursé, ça passera à 10%. Ok. Et en Italie, un tube vaut 8 euros. D'accord. Donc ça va devenir plus cher.
La décision sera donc très politique, on l'a bien compris.
Tara Schlegel, spécialiste santé à France Culture, merci. Une nouvelle plainte déposée cet après-midi au tribunal de grande instance de Lyon par 90 personnes parce que du glyphosate a été retrouvé dans leurs urines. Une campagne lancée en avril dernier invite les citoyens à faire mesurer la présence de cette molécule dans leur organisme. Le glyphosate, classé probablement cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer, près de 2000 plaintes ont déjà été déposées dans toute la France. 45,8 degrés relevés cet après-midi dans le Gard à Galargues, 44,3 degrés à Carpentras dans le Vaucluse. Jamais de telles températures n'avaient été enregistrées en métropole. Les deux départements ainsi que l'Hérault et les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge canicule jusqu'à dimanche matin. 75 autres départements en France sont toujours en alerte orange. Une vigilance levée pour le département de la Charente-Maritime. À la veille des congés d'été, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, appelle les Français à décaler leurs déplacements si possible. Le réseau ferré n'est, selon elle, pas conçu à résister à de telles chaleurs. 4000 écoles sont par ailleurs restées fermées aujourd'hui pour préserver les enfants des fortes chaleurs. L'année 2019, qui devrait être une des années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, c'est ce que déclare aujourd'hui l'Organisation météorologique mondiale. La forêt joue un rôle essentiel, notamment dans la régulation de la température des territoires. Eh bien, il en est question dans un rapport interministériel remis hier en toute confidentialité à 4 ministères, écologie, agriculture, compte public et cohésion des territoires, sans avoir été rendu public. Un rapport très attendu notamment par les agents de l'ONF, l'Office National des Forêts, puisqu'il va décider en partie de ses futures missions. L'ONF gère 25% de la forêt française. Les précisions d'Anne Lorchouin.
Confié à une mission interministérielle, ce rapport est censé évaluer le contrat d'objectifs et de performance de l'ONF qui a atteint son plafond d'endettement, 400 millions d'euros, et qui emploie 9000 personnes, des effectifs qui ont fondu depuis 15 ans. Ce rapport, si l'on en croit le communiqué rendu public par les ministères concernés, devrait voir l'ONF conforté dans ses missions, notamment au niveau des communes forestières, des communes assistées par l'ONF sur la gestion de leurs forêts, qui se voient depuis plusieurs années déjà obligées de payer à ce même ONF des services qui étaient autrefois rendus gratuitement. Anne-Catherine Loisier est sénatrice centriste de Côte d'Or et auteur d'un rapport sénatorial rendu il y a quelques jours à peine sur le même sujet. Elle pointe elle aussi la difficulté des rapports entre l'ONF et les collectivités forestières.
La forêt, c'est un secteur dans lequel les élus et les citoyens sont de plus en plus vigilants. Et donc, on a de plus en plus ce qu'on appelle de stratégie locale de développement forestier. Et ça, c'est piloté par les élus. Et donc, les élus ont voulu s'emparer de plus en plus de leur potentiel, de leur forêt. Et parfois, ça s'est un peu heurté avec un ONF, des agents sur le terrain, qui avaient eu le sentiment que c'était à eux qui pilotaient.
L'ONF, dans le budget, est assis sur les ventes de bois. Or, les cours du bois stagnent depuis plusieurs années, sans compter que ce système met en péril les services d'intérêt général rendus par l'Office dans un contexte de réchauffement climatique et alors que la forêt est un élément essentiel de la lutte pour le climat, il faut que l'État réabonde le budget de l'ONF, pointe la sénatrice. On saura dans les prochains jours si l'État est du même avis.
Anne Lorchouin. Plusieurs dizaines de militants de l'association écologique Extension Rébellion France ont bloqué le pont de Sully dans le 5e arrondissement de Paris cet après-midi. Cette association appelle à la rébellion devant l'urgence climatique pour agir maintenant. Les défenseurs du climat qui restent donc mobilisés, comme tous les vendredis, une partie de la jeunesse en Europe est elle aussi descendue dans les rues. C'est le mouvement Fridays for Future, très populaire outre-Rhin. À Berlin, entre 600 et 900 jeunes ont encerclé symboliquement le Bundestag pour demander aux députés, avant leur pause estivale ce soir, de continuer à travailler et à agir sur la question climatique. Ludovic Piétenu.
Ils forment une chaîne humaine et tiennent tous un petit bout d'une longue bande de tissu rouge. Le rouge symbolise l'urgence face à la crise climatique, explique Jonas, 17 ans. Il manifeste depuis le mois de décembre, depuis le début. C'est la 28e fois pour lui et les autres jeunes Allemands.
Je crois que les politiques n'ont vraiment rien compris. Ils ont tous signé l'accord de Paris et maintenant, tout ce que certains trouvent à faire, c'est de le piétiner.
Et même si le président français Emmanuel Macron en a fait une ligne rouge, l'accord de Paris sur le climat pourrait ne pas figurer dans la déclaration finale du G20, à en croire des organisations non gouvernementales qui ont eu accès au brouillon. Aline, 19 ans, étudiante française à Berlin.
Clairement, du dégoût, et je trouve ça ridicule. À quel moment est-ce qu'ils pensent encore que le monde va continuer à les élire, qu'ils vont pouvoir continuer à faire leur politique comme ça? Ça va pas pouvoir continuer pareil. Enfin, c'est pas possible de se voiler la face à un point pareil. On peut que espérer que tout un mouvement populaire vraiment va juste se créer, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on peut rien attendre de là-haut.
À côté d'elle, Benjamin, un jeune Allemand de 17 ans.
Parfois les politiciens pensent juste à l'économie et ne s'en occupent pas beaucoup à notre futur commun, donc ça c'est triste.
Devant le Bundestag, beaucoup de touristes observent l'action de ces jeunes d'une façon amusée, ils prennent des photos, d'autres sont carrément désintéressés et critiques. Serge et Christine, 70 ans, retraités parisiens.
Et maintenant il faut sauver la planète.
C'est très ambitieux.
Utopiste, mais c'est normal. C'est les jeunes.
On est plus chaud de le climat.
Et on peut leur dire
oui,
que...
Ça veut rien dire, on est plus chaud que le climat, c'est pas bien grand chose.
Ça veut rien dire.
Reportage signé Ludovic Piétenu, notre correspondant en Allemagne. Les 20 chefs d'État les plus riches du monde réunis donc pour la photo ce matin à Osaka, coup d'envoi du G20 au Japon. Au centre de la photo, le premier ministre nippon Shinzo Abe et de chaque côté l'américain Trump et le chinois Xi Jinping, appelés à trouver un terrain d'entente alors que leurs deux pays se livrent une guerre commerciale depuis plusieurs semaines. Les deux chefs d'État se rencontrent la nuit prochaine, un sommet dans le sommet. Dominique André.
Faut-il se fier aux dernières déclarations du président américain qui dit s'attendre à une rencontre productive demain, alors que le même Donald Trump assure n'avoir fait aucune promesse de gel de droits supplémentaires sur les marchandises chinoises. La réponse est toujours la même. Comment peut-on croire un président qui dit tout son contraire, confie un diplomate chinois. La dernière fois que Donald Trump et Xi Jinping se sont vus en tête-à-tête, c'était en novembre dernier. Depuis, les négociations sont tombées dans l'impasse. Selon le Wall Street Journal, Xi Jinping présentera demain une série de conditions auxquelles Washington devra se plier avant que la Chine n'accepte de conclure un accord commercial. Le ministère du Commerce à Pékin a déjà demandé une annulation sans délai des sanctions américaines contre le géant Huawei. Les retrouvailles des deux dirigeants sont très attendues par tous les participants à ce sommet qui craignent, comme les marchés boursiers fébriles, les effets dévastateurs d'une guerre commerciale sur la croissance mondiale.
Les précisions de notre envoyé spécial à Osaka, Dominique André. En marge de ce G20, Donald Trump a été invité par Vladimir Poutine, le président américain participera donc aux commémorations du jour de la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai 2020 à Moscou. Les deux chefs d'État ont par ailleurs discuté aujourd'hui du contrôle des armements, de la situation en Syrie ou encore de leurs relations commerciales avec la Chine. Pas de vacances du pouvoir en Tunisie. La santé du président Essebsi s'est améliorée, son entourage l'assure. Malgré tout, au lendemain du double attentat suicide qui a fait un mort et 8 blessés, on s'inquiète de l'impact éventuel de cette attaque sur le tourisme et sur l'état de santé du président hospitalisé d'urgence après un malaise hier. Essebsi, le plus vieux chef d'État du monde après la reine d'Angleterre, il a 92 ans. Alors quelle opinion ont les habitants de la capitale sur leur président? Réponse sur place avec notre envoyé spécial Benjamin Elie.
Le président, ce qu'en pense ce carrossier croisé dans le centre-ville?
Kif-kif. C'est le même, Essebsi, il est notre, Essebsi, il est notre.
Tous les mêmes, c'est ça?
Tous les mêmes. Kif-kif.
Sentiment mitigé, parfois un sentiment de rejet, comme pour ce banquier à la retraite. Hamda, 65 ans, est déçu. Il a voté pour le chef de l'État lors de son élection en 2014.
En ce moment-là, il présentait beaucoup pour nous. L'éloignement du parti de Nahda.
Et Nahda ?
On ne voulait pas. On voulait pas Nahda, on ne voulait pas les islamistes, parce qu'ils sont très mauvais. Mais malheureusement, il a fait une coalition avec la Nahda. Catastrophe pour nous. Il nous a promis beaucoup de choses, mais il n'a rien fait. La vie est devenue très chère, le chômage de plus en plus.
Un petit café au coin de la rue, rue de l'Inde, très exactement. Que représente le président Essebsi à vos yeux?
Il est considéré comme le père de tous les Tunisiens.
Mouna, 48 ans, cadre supérieur.
Et on le respecte aussi. Je souhaite qu'il se rétablisse et je souhaite plus qu'il reste président puisqu'il est défaillant côté santé et tout.
Un état de santé en voie d'amélioration, affirme son entourage. Beji Caïd Essebsi reste officiellement chef de l'État depuis son lit d'hôpital. La présidence l'assure, il n'y a pas de vacances du pouvoir.
Benjamin Ali à Tunis. En Algérie, dispositif policier exceptionnel mis en place dans le cœur de la capitale Alger. Des milliers de manifestants se donnent rendez-vous pour leur 19e rendez-vous, pour leur 19e vendredi de manifestation. Ils demandent toujours aux héritiers d'Abdelaziz Bouteflika de quitter le pouvoir. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme demande que les proches des djihadistes capturés ou tués en Syrie et en Irak soient rapatriés. Michel Bachelet en a formulé le souhait en début de semaine devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Des milliers d'enfants sont concernés, comme dans le camp de Roge au Kurdistan syrien. Là sont retenus depuis plus d'un an des centaines d'enfants de djihadistes avec leur mère. Plusieurs dizaines sont français. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir.
Vous avez rencontré un couple de grands-parents qui se sont rendus sur place pour rendre visite à leurs petits-enfants et ils n'ont pu les embrasser qu'à travers le grillage.
Oui, ils s'appellent Monsieur et Madame Lopez, 63 et 65 ans, couple d'éducateurs à la retraite. Ils sont les parents d'un fils parti rejoindre Daesh en 2015 et qui a été condamné à la peine de mort en Irak il y a tout juste un mois. C'est juste après ce procès express auquel ils n'ont pas pu assister que les Lopez ont décidé de partir dans le camp de Roj, au Kurdistan syrien, où sont retenus avec leur belle-fille leurs quatre petits-fils de 9 ans, 5 ans, 3 ans et 8 mois. Ils voulaient juste les serrer dans leurs bras, les réconforter, comme ont d'ailleurs pu le faire sous leurs yeux d'autres grands-parents, autrichiens et suédois. Mais les Lopez racontent qu'eux ont été bloqués par les Kurdes à la porte du camp.
La Suédoise et les Autrichiens ont pu rentrer dans le camp, voir leurs filles et leurs petits-enfants pendant une heure et demie. Nous, on nous a fait attendre et on nous a dit clairement que nous n'aurions pas accès au camp et que cette décision ne provenait pas des autorités kurdes. Elle provenait, nous a-t-on dit, de la coalition et de la France.
Les Lopez avaient apporté pour leurs petits-enfants des valises pleines de médicaments, de livres et de jouets avec des biberons pour le dernier né sous la tente cet hiver. Ils ont fini par avoir le droit de déposer un bagage, mais on leur a ordonné de s'éloigner aussitôt du camp et ils ont dû se résoudre à repartir sans avoir pu parler à leurs petits-enfants jusqu'à ce qu'ils les aperçoivent derrière le grillage.
Nous avons vu à une certaine distance au loin deux petites silhouettes contre la grille. On a reconnu les deux aînés de nos petits-enfants. On a été jusqu'à eux, on a pu les embrasser à travers la grille, les toucher. Mais ça a été un moment extrêmement bref. Au bout d'une minute, de deux minutes, les gardes s'en sont aperçus. Ils ont accouru vers nous. Ils nous ont demandé de nous en aller.
Mon mari a pu embrasser l'aîné. Moi, j'étais derrière. J'ai pu juste lui parler, lui dire qu'on l'aimait, qu'on était là pour lui, pour ses frères aussi. Et qu'on pensait tout le temps à eux. Et on espère vraiment qu'ils rentrent vite parce qu'ils sont en train de s'abîmer. Pourquoi cette injustice pour des enfants innocents?
Les Lopez viennent d'adresser une lettre à Emmanuel Macron avec copie au ministre des Affaires étrangères et à la ministre de la Justice. Une lettre dans laquelle ils demandent au président de la République le rapatriement de leurs petits-enfants et de tous les enfants français prisonniers au Kurdistan syrien.
Sophie Parmentier, spécialiste enquête police-justice Radio France. Merci beaucoup. Le bateau humanitaire Sea-Watch, lui, est toujours bloqué devant le port de Lampedusa en Italie. Une quarantaine de migrants sont toujours à bord. Deux d'entre eux seulement ont pu être évacués la nuit dernière. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, refuse que les migrants débarquent sur le sol italien avant d'avoir l'assurance qu'ils seront immédiatement transférés aux Pays-Bas, en Allemagne ou dans d'autres pays européens. La météo de demain, le soleil s'imposera à nouveau sur la majeure partie du pays. Le temps sera gris. Toutefois, le matin de la pointe bretonne à la côte aquitaine, les températures minimales seront comprises entre 16 et 22 degrés au petit matin. Mais on aura encore pas moins de 23 à 26 degrés sur le pourtour méditerranéen et en moyenne en vallée du Rhône. L'après-midi, il fera 34 à 40 degrés sur la plupart des régions, parfois 41 à 42 degrés à l'ombre dans le centre du Péri. La chaleur sera un peu moins forte dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun, à la technique Jean-Frédérix.